Bonsoir. Au moins 9 personnes ont été tuées en l'espace de 2 jours en Ituri. Et selon des sources sur place, il s'agit des victimes des atrocités des groupes armés dans les territoires d'Irumu et celui de Djougou, où des miliciens ont multiplié des exactions contre des civils ces derniers jours. En Nord Kivu, ce sont 27 personnes qui ont trouvé la mort lors de l'attaque des présumés rebelles ADF dans la nuit de vendredi à samedi 12 mars à Mamboumemboumé dans le territoire de Beni. Les sources de la société civile qui ont révélé ces informations affirment que plusieurs habitants de ces villages sont également introuvables. De son côté, le député Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa parle des 2068 civils qui ont été sauvagement massacrés dans les deux provinces en 331 jours depuis l'instauration de l'état de siège et 383 personnes tuées pendant la période de la mutualisation des forces FRDC-UPDF. Quelle lecture faites-vous de la persistance des massacres dans ces deux provinces malgré la mutualisation des forces FRDC-UPDF et l'instauration de l'état de siège? Nous en parlons ce soir avec le professeur Sobert Ragenunga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, des géopolitiques et de sociologie militaire. Professeur Sobert Ragenunga, bonsoir. Professeur Sobert Ragenunga, bonsoir, vous êtes en ligne. On a des petits soucis avec sa ligne téléphonique, la réalisation va essayer de le rappeler. Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Et le professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir. Je crois que nous l'avons aussi perdu. La réalisation va aussi le recontacter. Vos réactions, nous les avons reçues. C'est notamment celle de Maître David Massandi depuis Shabunda au sud Kivu. Il est temps que le gouvernement présente les bilans détaillés de l'état des sièges, y compris de la mutualisation des forces FRDC-UPDF à la représentation nationale. Car rien ne rassure le peuple congolais pour obtenir une sécurité telle qu'envisagée par différentes méthodes utilisées pour rétablir l'autorité de l'État. Pourquoi pas créer un espace de négociation franche entre ces différents groupes armés et le gouvernement, car l'approche militaire démontre ses failles à Bounia dans la province de l'Ituri. Vous nous suivez sous la 104.9 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit, en Ituri, au moins 9 personnes ont été tuées en l'espace de 2 jours. Il s'agit des victimes des atrocités des groupes armés dans le territoire d'Irumu et celui de Djougou, où des miliciens ont multiplié des exactions contre des civils ces derniers jours. Parmi ces personnes figurent des femmes et des enfants qui, pour la plupart, ont été abattus à l'arme blanche. Des pillages des biens des habitants ont également été enregistrés lors de ces attaques. Le point avec Jean-Claude Loki.
Le dernier cas en date est le meurtre ce mardi d'une femme et de 4 enfants. Tous ont été tués lors d'une incursion des éléments de la milice FPIC à Mouroubia dans le territoire d'Irumu. Des sources sur place renseignent que des hommes armés ont emporté plus de 200 vaches. Ils ont également mis le feu sur des cases des habitants dont le nombre n'est pas encore connu. Dans la chefferie des Bayama Boga, une incursion des ADF a été rapportée ce mardi matin dans les villages Nyakabale. Le bilan provisoire dressé par les autorités locales fait état de 2 personnes tuées, dont une femme de 40 ans. Dans le territoire de Djougou, c'est un négociant d'or qui a été abattu lundi par des miliciens de la Codeco dans leur bastion à Makala, en chefferie des Banyali Kilo. Une autre personne a perdu la vie lundi dans une embuscade tendue par des éléments de la Codeco entre Jina et Pimbo sur la route nationale numéro 27 en territoire de Djougou. Selon des sources sur place, l'embuscade a été tendue à une voiture de transport en commun avec un sobord des passagers dont certains ont été blessés. Signalant enfin que le corps de 11 personnes tuées le week-end dernier par des rebelles d'ADF à Abakaï ont été inhumés lundi. Selon la société civile, cela fait suite à une attaque surprise le samedi de leur village par ces rebelles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Question orale avec débat adressé au ministre de la Défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. L'auteur de la question, le député national Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, déplore le massacre de 79 civils du 12 au 14 mars dans plusieurs localités des Béni dans le Nord Kivu et Irumu en Ituri. En outre, ajoute l'élu des Béni, 2068 civils ont été sauvagement massacrés en 331 jours, soit une moyenne de 7 civils tués par jour depuis l'instauration de l'état de siège. Et pendant la période de la mutualisation des forces FRDC et UPDF, on dénombre 383 civils tués. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa est au micro de Michel Kifinangoy.
Malgré les multiples prorogations de l'état de siège et la mutualisation entre les FRDC et l'UPDF, les populations de Oichal, de Beniville, de Komanda et Mambasa viennent de faire un décompte triste d'au moins 79 civils congolais tués. Depuis l'instauration de l'état de siège le 6 mai 2021, au moins 2068 civils ont été tués à 311 jours, ce qui donne une moyenne de 7 civils tués par jour. Raison pour laquelle je viens de déposer une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense pour que le plus rapidement possible, il vienne nous expliquer quelles sont les causes réelles de l'enlisement de cette situation, mais également quelles sont les mesures fortes qu'il a prises pour sortir de cet enlisement dans les deux provinces sous état de siège.
Professeur Dadi Saleh, vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités, instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Persistance des massacres des civils dans les deux provinces sous état de siège, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri. Et malgré cet état de siège et même la mutualisation des forces FRDC, UPDF pour l'instauration de la paix dans ces deux provinces, on a comme l'impression que la situation ne s'améliore pas. Quelle lecture vous faites-vous de cette persistance des massacres des civils dans ces deux provinces?
Oui, madame, je suis désolé de dire, parce qu'on l'a toujours dit, que c'est normal que ça puisse persister, parce qu'on dit au grand mot, grand remède. On dit effectivement qu'il faut des politiques adéquates de défense et que malheureusement, ce n'est pas ce que nous semblons prendre, mais cela étant, quand nous citons, nous parlons de mots, par exemple, si on prend l'article 85 par rapport à l'état de siège, je me demande vraiment si nous sommes dans l'état de siège par rapport à la logique du constituant. Ça va, parce que c'est une situation d'urgence, c'est une situation où il y a menace persistante, et c'est-à-dire qu'on doit agir en conséquence parce que il y a l'indépendance même et l'intégrité territoriale qui sont menacées. Donc, on les dit oui, mais les mesures prises me semblent être un peu plus légères, parce que la tension même de la nation ne semble pas être là. On les dit par des paroles, mais quand on voit par exemple ce qu'avait promis le président de la République, d'aller lui-même à Beni, le premier ministre, etc., là on pouvait se dire, vous avez vu le président de l'Ukraine, lui-même a pris les armes, et on le voit au front, il peut porter des cravates, oui, mais rarement on le voit en cravate, parce que la situation est grave, mais malheureusement, la classe politique et la classe dirigeante des leaders congolais, effectivement, ne veut pas prendre la situation par rapport à sa gravité, je suis désolé, ce qui fait que ça ne m'étonne pas.
Et c'est là. Alors, lorsque vous dites que les mesures prises semblent être légères, vous faites allusion à l'état des sièges et à la mutualisation des forces FRDC et UPDF?
Tout à fait. Parce que c'est beau quand on parle état des sièges. Et c'est une mesure par rapport à la Constitution, c'est une bonne mesure. Mais c'est l'application. Plutôt le problème, parce que à Goma, nous vivons presque normalement. Ce qu'on vivait avant, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le gouverneur est là, qu'il soit militaire ou pas, je ne sais même pas la différence entre un gouverneur militaire, n'est-ce pas, et un gouverneur qui n'était pas militaire, civil. Ça va. Il s'occupe presque des affaires courantes, on ne le sent pas, on ne sent pas que vraiment là, on est un gouverneur militaire et que c'est pour se battre. C'est pas pour faire de l'administration d'une façon normale. Là, c'est un exemple simple, et surtout sur terrain. Mais sur terrain, il faut dire à tout le monde, nous avions déjà Sokola 1, Sokola 2, donc on s'est batté. Donc qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Je ne sais pas, je suis pas dans le secret peut-être de la défense, et je n'ai pas besoin de l'être. Parce qu'effectivement, moi j'ai besoin de voir des résultats. Et selon l'article 685 de notre constitution qui donne la force à cet état de siège, c'est 30 jours. Donc on devait faire tout. On se bat, on utilise tous les moyens et dans 30 jours on fait l'évaluation. On s'est dit bon, peut-être qu'on n'a pas fini, on peut reprendre encore 15 jours pour nettoyer. Et à la mesure de l'impossible, 15 autres jours. Mais là, ça devient un état normal. Donc je pense que l'application de l'article 85 est totalement biaisée.
C'est un problème de stratégie où il faut y ajouter la question de volonté politique de pouvoir mettre fin à cette insécurité dans ces deux provinces.
Tout à fait, madame, parce qu'il faut noter que la sécurité, ça va, et la politique de la défense, ce n'est pas le FARDC qui donne la politique de la défense. Nous avons les chefs extrême. Le premier grand chef, c'est le président de la République. Et puis, nous avons le ministre de la Défense. Donc, il ne faut pas condamner les militaires. Les militaires ne font que exécuter. Mais la vraie politique où il faut des moyens, par exemple, comme je l'ai dit, quelle est notre force dissuasive en termes de macro-sécurité? Je dis, je le répète, c'est un peu comme si nous sommes un serpent totalement mort. Hein. C'est un grand pays, mais on est grand pays en termes militaires, en termes macro-sécuritaires, nous ne pesons pas. Tout le monde peut nous attaquer quand il veut, les rebelles peuvent se créer quand ils veulent, mais ben, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous avons un sérieux problème de macro-sécurité. La force est dissuasive, qu'on fait encore une fois, ça va, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie. Donc il faut avoir une force dissuasive, et là personne ne peut jouer avec vous, comme on est en train de jouer avec la République démocratique du Congo. Mais quelle est maintenant notre politique micro-sécuritaire? Nos politiques micro-sécuritaires ne sont pas bien définies. Parce que chaque Congolais doit être défendu comme tout Congolais. Par rapport à la Constitution, nous avons le même droit. Madame, pensez-vous que si c'était à Kinshasa, ça va, ou bien à Lubumbashi, ou bien dans Gomaville, etc., qu'on était en train d'égorger les Congolais, qu'on vienne égorger les enfants d'un ministre, ça va, ou bien du président, parce qu'il est Congolais comme tout Congolais, comme on les égorge effectivement à Beni, à Ituri, un peu partout. Ça aurait de même écho? Non. Donc, apparemment, il y a une mauvaise compréhension de la macro-sécurité où chaque Congolais a le même droit. Je vous assure, ça serait autre chose. C'est un peu comme si on a une catégorie de dirigeants où là-bas, il n'y a pas de Congolais. Et pourtant, on doit défendre tous les territoires congolais. Donc, il y a des mauvaises politiques, de la défense. Tenez, madame.
Mauvaise politique de la défense, professeur Dadi Salé, entre-temps, il y a certaines sources qui parlent des enfants du coin, que ce soit dans le Nord Kivu, à Beni ou en Ituri, qui seraient derrière ce phénomène, qui tireraient le ficelle pour que la situation ne puisse pas s'améliorer.
Oui, malheureusement, madame. Et je pense que quand j'ai dit que nous avons une très mauvaise structure politique, parce qu'effectivement, vous avez compris que le Belge nous avait mis dans une sorte de piège. Donc la politique actuelle en Afrique, et surtout en République démocratique du Congo, on a notre professeur Aguenonga qui peut en parler mieux que moi, ben, elle est tribalo-ethnique. Ça va. C'est qu'il sait effectivement que nous avons eu le 1 plus 4. Qu'est-ce qui s'est passé avec 1 plus 4? C'est-à-dire qu'il y avait des chefs du Nord, Grand Nord, Est, etc. C'était tribalo-ethnique. C'est ce qui continue. On n'a jamais eu un leadership, Kabila Le Père a essayé, ça n'a pas marché, malheureusement. On n'a pas eu jusque-là un leadership fort pour couper ces aspects-là. Donc, madame, si vous avez presque chaque tribu qui a, à l'Est surtout, qui a des groupes armés, et selon nos statistiques, c'est peut-être pas Idjoui seulement, où nous n'avons pas de groupes armés tribalo-ethniques. On vous signale, comme vous le savez mieux que moi, pour le peuple congolais, qu'on a plus de 150 groupes armés. À part maintenant les FDLR et ce qu'on entend parler, les CODECO, etc. Mais on a plus de 150 groupes armés. Donc presque chaque tribu a des groupes armés. C'est la mauvaise effectivement politique du Congo qui se reflète exactement dans ces groupes armés. Parce qu'on a remercié les belligérants. Quand vous créez un groupe armé, alors on va vous respecter, vous allez être ministre, vous allez être général, etc. Et malheureusement, ça continue avec les DDR. Donc la philosophie de la chose est biaisée. On ne prend pas la philosophie Kujitegemea, c'est-à-dire Tomi Lukela. cette philosophie qui veut en sorte que nous puissions comprendre le tout du besoin du peuple congolais. Nous sommes une nation.
Professeur Sobert Agenunga, professeur à l'université de Kisangani et spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur, quelle lecture vous faites de la persistance des massacres dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri malgré l'instauration de l'état de siège et la mutualisation des forces FRDC-UPDF?
Bien, merci pour la parole. Au-delà même des deux faits que vous venez de relever, il y a aussi la tripartite parce que depuis janvier, il y a la MONUSCO qui s'est invitée dans le débat. Je vais analyser distinctement ces deux dimensions. Nous avons d'un côté l'état de siège qui a été décrété depuis mai 2021 et de l'autre la mutualisation de forces qui est intervenue dès novembre 2021. Alors, s'agissant de la mutualisation de forces, il convient de souligner qu'il y a eu une impréparation, il y a eu une mauvaise planification. Il est tout à fait impensable de constater que les opérations militaires entre les FRDC et l'UPDF sont intervenus avant même que l'accord qui définit les responsabilités, les secteurs d'intervention des différentes forces ne soit signé. Et de l'autre côté, la problématique réside au niveau du déficit de la coordination. Le constat est tel que dans la région où opère le présumé ADF, je voudrais dire le triangle situé entre les territoires de Mambasa, de l'Ituri et de Dirumo en Ituri et de Beni dans le Nord Kivu. Alors, l'on s'aperçoit que les opérations ont été concentrées davantage au niveau de Beni, ce qui a évidemment entraîné le déferlement de présumés ADF vers le territoire d'Irumu. Donc, tout cela à cause d'une mauvaise coordination. Et par ailleurs, je voudrais relever au niveau de la mutualisation des forces une certaine divergence d'intérêt. L'UPDF intervient non pas pour mettre un terme à la crise sécuritaire, mais par contre, c'est pour sécuriser le tronçon routier que l'Ouganda doit asphalter. Vous savez que depuis mai 2021, si ma mémoire ne me trahit pas, l'Ouganda a signé un accord qui lui permet de réhabiliter les tronçons routiers allant du territoire de Beni, Kasindi, jusqu'à Bunagana jusqu'à Rutshuru pour un coût total de 334,5 millions de dollars. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe de très près la situation, depuis le mois de janvier, les FRDC et l'UPDF n'ont pas pu être à mesure de mettre sur pied des stratégies efficaces et cohérentes de sécurisation des civils et de leurs biens, mais aussi des traques, des présumés ADF. Par contre, les stratégies ont été orientées vers la sécurisation des tronçons que l'Ouganda est appelé à réhabiliter. Alors, je reviens sur le tas de sièges. Le problème demeure le même. Nous l'avons déjà analysé avec lucidité sur les ondes de la radio Okapi. Le tas de sièges a été décrété dans la précipitation absolue. On a décrété le tas de siège dans un double but. D'un côté, pour permettre la neutralisation des groupes armés qui sont responsables de la crise sécuritaire, et de l'autre, la sécurisation des populations et de leurs biens, comme c'est clairement défini dans le préambule de l'ordonnance irrelative. Mais lorsqu'on déploie les unités pour traquer évidemment les groupes armés, eh bien, il n'a pas été mis sur pied une structure qui serait chargé de lancer ce que nous appelons le désarmement, donc qui prendrait en charge les miliciens aussitôt rendus. Mais de l'autre côté, l'on s'aperçoit qu'il y a une certaine déficience même dans la chaîne de commandement. Les officiers qui sont déployés sur le terrain ont acquisé leur incapacité devant les caméras du monde entier d'être à mesure de mettre sur pied des stratégies efficaces susceptibles d'entraîner la fin de l'activisme des groupes armés. Et le constat que l'on fait, c'est que le milicien opère toujours dans la même zone sans être inquiété. Et par ailleurs, il y a la faiblesse de la
Mais il faut quand même saluer, professeur Sobert Agenunga, il faut quand même saluer les FRDC qui ont réussi à neutraliser et à mettre hors d'état de nuire plusieurs rebelles, que ce soit les rebelles ADF ou encore de la CODECO.
Pouvez-vous en citer un seul depuis que l'état de siège a été décrété? Je n'ai enregistré, je ne puis identifier aucun groupe armé qui a été neutralisé. Ça, il faut le souligner. En revanche, nos observations
peut-être pas neutraliser le groupe, mais arrêter certains leaders de ces groupes armés.
Je précise le fait que quelques combattants des groupes armés ont pu être neutralisés, mais cela n'a eu aucun effet sur la sécurité dans cette région. Le présumé Adel sont toujours restés actifs pour votre gouvernement. Et en deux journées, entre le 13 et le 14 mars dernier, au moins 52 civils ont été massacrés par les présumés ADF. Alors, moi, je me demande quel aura été l'impact de ces statistiques de neutralisation des groupes armés qui ont été présentées. Je crains même que l'on assiste plutôt à une véritable guerre médiatique. Nous avons la faiblesse de la prise en charge, comme j'étais en train de le dire tantôt. Lorsqu'on va sur le terrain des opérations, l'on va s'apercevoir que la plupart des militaires qui sont déployés au front ont érigé des barrières où ils rassonnent les civils. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont faiblement pris en charge. Alors pour subvenir à leurs besoins, pour survivre, ils sont obligés de trouver une alternative, laquelle percevoir des taxes de manière tout à fait illicite. On se rappelle, il n'y a pas très très longtemps, un incident sécuritaire était survenu à Beni à cause évidemment de partage de butin entre le militaire, ce qui a entraîné la mort d'homme. Et je vais ajouter la déficience des effectifs. Dans la région où les miliciens sont en train d'opérer, ils tuent toujours au même endroit, comme je le disais tantôt, sans la moindre intervention militaire. Et lorsque le militaire doit intervenir, c'est évidemment pour tenter de sécuriser les sites, mais sans pour autant consolider leur position.
Professeur Aguelonga, comment vous répondez à ces personnes ou à certains experts qui pensent que l'ampleur des massacres avant l'état des sièges et la mutualisation des forces a sensiblement diminué après l'instauration de l'état des sièges et la mutualisation des forces?
Alors, il y a deux faits qu'il faudrait présenter de manière séparée. Nous avons d'un côté l'état de siège. Je vous ai dit tantôt que notre diagnostic est sans appel. Depuis que l'état de siège a été lancé, évidemment, nous avons assisté à une flambée de massacres. Je pense que, et tantôt vous avez suivi l'honorable Jean Kasegwa qui a présenté un tableau reluisant de la situation sécuritaire. Donc au moins 2000 civils ont été massacrés depuis le lancement de l'état de siège. Alors revenons à la mutualisation des forces, le constat que nous avons fait au départ, les miliciens ont censé faire profil bas, mais depuis un certain moment, l'on s'aperçoit que les massacres sont en train de prendre des proportions plutôt inquiétantes. Je viens de vous dire tantôt que en deux jours seulement, on a massacré 52 civils dans la chefferie des Wales et Vokutu, que je voudrais présenter pour ceux qui ne connaissent pas la région. Wales et Vokutu se trouvent dans les territoires d'Irumu. Et c'est justement à la limite avec le territoire de Mambasa et d'une part et le territoire de Beni d'autre part. Et cette région constitue depuis longtemps l'épicentre du massacre de présumés ADF que les opérations conjointes étaient censées évidemment neutraliser.
Merci.
Mais l'on s'aperçoit que il est plutôt loin d'être le cas.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Votre analyse, professeur Arsène Mouaka, est-ce que vous avez l'impression aussi que les massacres des populations civiles sont en train de prendre des proportions inquiétantes, comme l'a souligné le professeur Chobert Aguelonga?
Oui, la première chose, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés cette nuit et hier, puisqu'ils sont très nombreux, et dans la région, ça crée l'émoi, ça crée l'insécurité psychologique, alors que la population commençait à penser que c'est le retour aux chances, le boom de cacao qui est très visible dans la ville de Beni, et dans la reprise de la vie en ville, même si dans le milieu périurbain, c'est le retour encore une fois de plus à ce qu'on a eu à déplorer de tous les temps. Je suis d'avis, et c'est pratiquement la thèse que je soutiens dans ce débat, qu'il n'y a pas d'état de siège, nous réclamons l'état de siège. Je pense que il faut qu'il y ait état de siège, parce que ce que nous avons vu, c'est seulement le remplacement des autorités civiles par les autorités militaires. On a vu des bureaux de terre peints, comme on le voit à Bounia, où pratiquement l'autorité militaire se déploie pour essayer de repeindre ce qu'il peut repeindre et faire des prouesses dans la maximisation des recettes. Cela est visible et à Ituri et au Nord Kivu. Des arrestations arbitraires le soir, où on vous dit le couvre-feu c'est à 19h, mais on vous laisse jusqu'à 21h pour laisser la possibilité de vous attraper entre 19h et 21h. J'en ai été moi-même victime 3 fois. Et donc c'est l'anarchie, et c'est pratiquement un tableau qui nous rappelle les tracasseries militaires de l'époque Mobutu. Ce n'est pas ça l'état de siège. Nous réclamons l'état de siège puisque...
Alors, qu'est-ce que vous entendez par état de siège? Parce que vous dites que ce n'est pas seulement le remplacement des autorités civiles par celles militaires. C'est quoi pour vous l'état de siège? Qu'est-ce qui devrait être fait?
Oui, la première des choses, ça devait être l'intensification des opérations militaires. On devait sentir un changement dans pratiquement la tactique adoptée. On devait sentir que les erreurs anciennes sont abandonnées, genre quand il y a des militaires qui rentrent à brousse pour aller tuer l'ennemi, il y en a qui sécurisent les agglomérations et les milieux environnants. Et donc, on devait avoir une sorte de reprise de l'autorité de l'État par résultat. C'est-à-dire l'autorité de l'État se reprend par l'autorité militaire qui traque l'ennemi de manière visible, comme on commençait à le voir, où on a vu pratiquement cette fois-là des ADF, des vrais, attrapés et même en train d'être jugés. Ce résultat-là qui était en train d'être observé, et quand vous causez avec la population, par exemple dans la ville de Béni, on commençait à vous dire, bon, au moins dans la ville ici, on est un peu sécurisé, ce n'est plus comme avant, ainsi de suite. Donc l'état de siège, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas le retour de pratiques de l'époque Mobutu, c'est pas ça l'état de siège, c'est pas un roulage qui s'illustre par des arrestations, parce qu'on a dit que l'autorité maintenant c'est les mains des militaires et des policiers. Donc je réclame pour dire qu'il faut qu'il y ait l'état de siège.
On a vu les opérations être intensifiées, on a vu le renforcement des militaires au front. Il y a quand même des gens qui pensent qu'il y a eu un petit changement par rapport à la situation d'avant état de siège, professeur Mwaka.
Oui, dans les milieux urbains, on a semblé croire y voir un changement. Je vous parle à partir de la ville de Béni. Je suis dans la ville de Béni. Je reviens de Bounia. Il fallait quand même que ça continue. Malheureusement, ça s'arrête vite. Et ça correspond peut-être à un moment où on traque l'ennemi dans la bouche. Or, tout le monde qui n'est pas militaire sait que quand on traque l'ennemi dans la bouche, il rentre à ville et il tue, il fait des choses impossibles. Ça signifie qu'on devait avoir une préparation, genre ceux qui sont entrés à Brousse les traquent là-bas, ceux qui sont dans la partie périurbaine prennent le temps de pouvoir s'en occuper. Mais on a comme l'impression que ceux qui sont censés barrer la route à l'ennemi les laissent passer finalement. L'ennemi fait ce qu'il fait, et surtout que, comme avant de tuer, la population commence par dénoncer pour dire on a vu des suspects, et ainsi de suite, et finalement, le plus souvent, il n'y a pas quelque chose qui est fait.
Vous sentez comme un relâchement, professeur Mwaka, parce que vous dites qu'avant, on a constaté comme un début des changements, mais après, la situation est redevenue comme avant, donc l'insécurité, les massacres se sont amplifiés. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme une sorte de relâchement?
Je ne parlerai pas de relâchement. Moi, je dirais que le changement est intervenu quand il y a une mutualisation des forces. Quand on a vu des bombardements et autres très perceptibles et sentir que l'ennemi est à des bandades, il y a eu changement. Mais dès le moment où on a lancé l'état de siège, il n'y a pas eu changement. Les choses ont continué comme tel. Tout ce qu'on a vu, c'est que les treillis ont remplacé les costumes des civils. C'est seulement ça, puisque ces militaires et autres qui gèrent les communes, les villes, et ainsi de suite, s'illustrent par autre chose que le commandement des opérations militaires et tout le reste. Donc je pense qu'il y a une mauvaise prise de disposition pour ce qui est de l'état de siège. Par contre, la mutualisation des forces a semblé porter des fruits et redonner une force psychologique et à la population et à l'armée. C'est ce qu'on n'a pas pu capitaliser, et c'est peut-être ce qui ressemblerait une espèce de relâchement. Mais on voit les militaires au front, mais c'est très visible. Quand vous passez, rentrez sur la route Cassine, vous verrez les gens vendre la braise, les gens vendre le bois de chauffe du parc national de Virunga. Même celui qui passe par là le voit, que l'activité c'est autre chose que qu'on attendrait d'un militaire qui est en état de siège. Je ne minimise pas le travail de militaires, je les salue, je salue les morts qu'on déplore, mais j'aurais bien voulu que l'état de siège soit autre chose que ce que nous observons aujourd'hui.
On va prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler. Professeur Chobert Aguenunga, on va aller à Ariwara dans la province de l'Ituri pour écouter cet auditeur.
C'est Sonny Benjamin à partir d'Ariwara en territoire d'Arou. Tous les groupes armés ne s'attaquent qu'à la population qui n'a ni armes ni autres moyens de défense. Ce qui montre qu'ils n'ont pas besoin de la guerre, mais ils revendiquent leurs droits auprès des autorités. C'est pourquoi nous demandons à nos gouvernants d'user d'une autre stratégie, outre la force. Sinon, on aura seulement la paix quand on aura massacré toute la population de ces régions en insécurité.
Professeur Chobert Aguenunga, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet auditeur qui nous a appelé depuis Ariwara, qui pense qu'il faudrait changer de stratégie?
Oui, certainement, il faudrait repenser l'approche à l'œuvre, comme je t'ai entré de le dire tout à l'heure. Sur le terrain, le constat est celui d'une certaine inefficacité de la chaîne de commandement. Il faudrait absolument repenser. Il faudrait également, au plus de moyens aux unités qui sont déployées sur le front, améliorer leur prise en charge. Et en outre, je crois qu'il faudrait améliorer également la collaboration entre civils et militaires. Et surtout que nous sommes en présence d'une guerre asymétrique. Dans la province de l'Ituri, l'on s'aperçoit paradoxalement que les miliciens sont profondément enracinés au sein de certaines communautés dont ils prétendent assurer l'autodéfense. Tout cela sur fond d'une crise de confiance vis-à-vis des militaires. Je l'ai relevé tantôt, faute d'une prise en charge. Les militaires eux-mêmes sont devenus une menace à travers les taxes illicites qu'ils ont érigées pour tenter de survivre. Mais cela le met dans une posture telle que les civils qui sont censés sécuriser les considèrent comme étant une menace. Par ailleurs, il faut renforcer également les contrôles autour de toutes les zones pour couper la chaîne d'approvisionnement aux rebelles. L'on ne comprend pas exactement où et comment les rebelles ont de la facilité à pouvoir s'approvisionner en armes et en munitions. Mais ce qui est particulièrement gravissime, c'est le fait que ces miliciens soient même dotés des uniformes des FRDC.
Oui. Professeur Dadi Saleh, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Beni, au Nord Kivu.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Tout en saluant la bravoure de nos forces loyalistes qui sont en train d'abattre un grand travail sur la ligne de front, il y a un adage qui dit que là où les armes échouent, les dialogues peuvent réussir. À mon avis, vu que toutes les stratégies mises en place par les services de sécurité, il y a toujours persistance de la faiblesse à cri face à l'ennemi qui arrive toujours à déjouer les plans d'attaque de nos forces loyalistes. À mon avis, je pense qu'il est presque temps d'inviter l'ennemi à la table pour savoir ses revendications, soit ses mobiles. Parce que la vie humaine, elle est tout à fait sacrée.
Professeur Dadi Saleh.
Oui, c'est presque la même question que le co-débatteur, notre ami. Au fond, nous dialoguons chaque fois et nous rappelons qu'effectivement, on a la task force en Ituri où il y a encore des gens qui ont été arrêtés. C'est parce qu'effectivement, il y a cette collaboration, il y a ces dialogues-là. On rappelle aussi qu'au sud de Kivu, il y a moins d'une semaine, que le gouverneur s'est assis avec plus ou moins 30 représentants des rebelles. Donc, j'aimerais rappeler à Maître, effectivement, que j'admire beaucoup, que le dialogue ne sera jamais coupé et il ne faut pas les couper. Mais de toutes les façons, c'est quand vous allez vous asseoir, il faut que vous puissiez avoir la dissuasion. Parce que si vous ne pesez pas, je vous assure, il n'y a pas de dialogue qui puisse marcher. Parce que la question n'est pas la bonne volonté. La question, c'est des rapports de force et des droits. Donc, je pense effectivement que j'aimerais rappeler, par exemple, notre ami de l'Ituri, qu'au fond, nous confondons un peu les choses. J'ai entendu mon co-débatteur qui a parlé d'améliorer les relations entre civils et militaires, couper la chaîne de... Tout ça, ce sont des points opérationnels, s'il vous plaît. Nous avons un sérieux problème stratégique. Ce sont des petits points opérationnels. Qui ne le connaît pas? Quel est le général que nous avons en République démocratique du Congo qui ne connaît pas qu'il faut couper l'approvisionnement effectivement de l'ennemi pour essayer de les gagner? On connaît tout ça et on a des spécialistes pour ça. Mais je pense que le sérieux problème que nous avons un problème d'un leadership faible. Un leadership congolais faible, excusez-moi d'être plus clair sur ce point-là, parce que je sens des gens tergiversés, ils ne veulent pas dire la vérité. La vérité, c'est que nous avons un seul garant de la nation. Et je pense, madame, vous serez d'accord avec moi que les garants de la nation, c'est le président de la République. Ce n'est pas le chef d'état-major. Ce n'est pas le ministre de la Défense. C'est surtout pas les gouverneurs militaires pour prendre un peu de grandes décisions. Je vous ai dit dès le départ, on prend de petites décisions. Les garants de la nation doivent être conséquents. C'est tout.
C'est quoi les grandes décisions, selon vous?
Ben, la première décision, est-ce qu'on peut déclarer la guerre et appliquer comme le professeur Arsène Mouaka l'a dit? Il a dit ce que j'ai dit il y a un peu avant, mais l'article 85 est mal appliqué.
Déclarer la guerre contre qui?
C'est ça la réalité. Nous sommes dans une situation normale, Sokola 1, Sokola 2, où on se bat et à Goma, les gens se pavanent, continuent à manger et boire, et à Kinshasa, c'est la même chose. Les gens boivent. Il n'y a pas d'alerte. Regardez un peu l'Ukraine. Le président va au front. C'est apparemment, on ne comprend pas qu'il y a beaucoup de morts au Congo jusqu'aujourd'hui qu'en Ukraine. Il y a des milliers de morts égorgés, mutilés. Donc c'est très grave. Il y a génocide d'une façon claire, noire sur blanc. Je pense que c'est l'élite plutôt du Congo qui ne prend pas à bras le corps la situation. Nous pensons que nous sommes dans une situation normale. Donc, je l'ai dit dès le départ, au grand mot, il faut des remèdes qu'il faut, et je pense que nous n'avons pas un leadership jusque-là courageux pour appliquer l'article, par exemple, 86 de la Constitution.
Alors, donc, professeur Nadis, allez-vous parler de déclarer la guerre contre qui?
La guerre contre les ADEF, la guerre contre les Nalu, la guerre effectivement contre tout pays, parce que je vais vous dire la peur que nos leaders ont. Nos leaders ont la peur de dire telle nation soutient tel rebelle, soutient le M23. Mais qui ne sait pas que le Rwanda soutient depuis un temps, même s'il nie, c'est pas ça notre problème. Nous devons avoir des leaders forts, ils ne vont jamais accepter. Donc nous ne sommes pas menaçants pour eux. Ça semble être mal vu, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous ne pointons pas du doigt les vrais responsables des massacres qui se passent chez nous. Ce ne sont pas les petits garçons, excusez-moi les mots, qu'on ramasse, qu'on recrute parce qu'ils sont dans la paupérisation, qui vont se battre et qui meurent, on se bat avec eux. Non, il y a des vrais responsables de multinationales, et il y a plusieurs rapports dans ce sens-là, et excusez-moi les mots, certaines grandes nations d'ailleurs des puissances seraient aussi citées. Nous prenons des petites décisions, cher professeur et cher ami, où on va vers la mutualisation, on va améliorer la relation entre les civils. Non, on passe notre temps inutilement. La situation continue à persister, parce que certaines personnes continuent à piller notre coltan, notre or, notre diamant, et le Congo ne sera pas la gâchette, effectivement, de l'Afrique. Ça arrange certaines personnes. Donc, que nos leaders seront en train de tourner sur en remplaçant un gouverneur civil par un gouverneur militaire, mais qui ne change rien, pratiquement, que malgré les efforts, on va condamner nos militaires inutilement.
Professeur Arsène Mouaka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Ferdinand Kendamina, à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu. Très décevant vraiment. Malheureusement, nos autorités ne veulent pas évaluer de fond à comble l'efficacité de l'état de siège tant vanté. Les civils meurent chaque jour du fait de la barbarie des ADF et des CODECO. Malgré les opérations militaires communes, aucun bilan allant dans le sens des rassurés. Le président de la République et les autorités militaires à tous les niveaux doivent pour une fois accepter que l'état de siège n'a pas marché comme on l'aurait souhaité et de projeter de nouvelles stratégies plus efficaces. Pourquoi ne pas même écouter les revendications de ces rebelles? Les citoyens congolais ont longtemps été massacrés vraiment et c'est trop. On risquerait d'assister à une fin de mandat sans que cet épineux problème d'insécurité ne soit endigué.
Alors, vous allez constater, professeur, que tous ces auditeurs qu'on a pris au téléphone reviennent sur le dialogue.
Oui. En fait, quand on a échoué la guerre, les gens pensent qu'il faut toujours dialoguer. Mais ici, on parle de l'état de siège. J'ai dit que je soutiens la thèse selon laquelle il n'y a pas encore état de siège. Ça n'a pas été organisé. On est déconnu à ce vocabulaire qu'on appelle l'état de siège. On ne peut pas gouverner par un vocabulaire, mais on doit gouverner par le contenu d'un vocabulaire. Et par conséquent, moi, je semble voir que si l'état de siège n'a pas montré que les choses ont changé, mais la mutualisation des forces a apporté un changement, ne serait-ce qu'une force psychologique au niveau de la population et même de notre armée. Et il fallait peut-être organiser côté de la mutualisation des forces pour espérer peut-être obtenir un résultat. Et donc, le dialogue, je pense qu'il y a un côté où le dialogue est possible peut-être en Ituri, pour parler des CODECO, du côté de Njugu et autres, mais je ne vois pas quel dialogue on peut faire avec l'ADEF qui n'a pas pratiquement de revendications claires, et encore que c'est une nébuleuse puisque tout ce qu'on appelle l'ADEF n'est pas nécessairement cette rébellion ougandaise constituée à la fois des Ougandais et de quelques Congolais perdus. C'est aussi parfois des gens qui utilisent ces noms-là a des plantations de café, de cacao, où les gens se transforment avec le phénomène qu'on appelle ici phénomène Sangabalende. C'est des individus parfois qui sont en relation avec des militaires égarés qui ont pour rôle de terroriser des agriculteurs qui veulent récolter dans leurs champs de cacao, égorger même s'il le faut et empêcher aux gens de jouir de leurs biens. Bon, je pense qu'il n'y a pas un dialogue avec des gens comme ça. Il faut des opérations sérieuses et ces opérations peuvent se faire sous le vocabulaire qu'on appelle l'état de siège. En tout cas, on y met un contenu. Pas seulement remplacer les civils par les militaires, démultiplier des barrières militaires. Là, on demande 1000 francs, 2000 francs à la population à chaque bout de chemin, même les chemins des champs, là où pratiquement on exploite la forêt à terme de bois, de braises et tout le reste. Ce n'est pas ça l'état des sièges. L'état des sièges, c'est autre chose que la population continue à attendre. Et la population, quand elle refuse ce qu'on appelle l'état des sièges, c'est ce désordre-là, c'est ce chaos qui rappelle le retour pratiquement à terme Mobutu.
Alors, professeur Hassan Mwaka,
la population est contre les opérations sérieuses.
Professeur Mwaka, pour conclure, vous saluez la mutualisation des forces. Vous estimez que ça, elle a apporté un changement, alors que tout à l'heure, le professeur Chobert Aguenonga estimait que l'armée ougandaise n'est pas venue pour mettre fin à l'insécurité. Elle est venue plutôt sécuriser les tronçons routiers qu'ils sont en train de construire. Donc, oui. Il faut continuer avec la mutualisation des forces et par rapport à l'état des sièges, on le maintient, mais on y apporte un contenu nouveau.
Bon, je sais que les Ougandais ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ils ne sont pas là nécessairement pour notre sécurité, mais c'est d'abord pour leur sécurité. Parce que c'est quand qu'ils ont connu les attentats qu'ils se sont levés pour dire qu'ils doivent venir s'occuper de la source de leur insécurité. Je sais qu'il y a toute la sécurisation de la partie du pétrole. Il y a beaucoup d'enjeux. L'Ouganda est très intéressé par le business avec le Congo. Je pense que c'est la première motivation. Mais je pense qu'à travers cette motivation-là, nous pouvons trouver notre compte des choses dans lesquelles nous sommes limités. S'il y a des forces spéciales que nous manquons, que l'Ouganda en a, nous pouvons profiter et orienter les choses de telle sorte que nous puissions éradiquer ces phénomènes et cette nébuleuse d'ADEF. Mais je ne pense pas que nous puissions réduire tout ce qui se passe juste pour la sécurisation d'une route. Je pense que les enjeux sont plus grands que ça. Et pour nous Congolais, il est possible, si nous mettons du sérieux à ce que nous faisons, et si nous changeons le vocabulaire d'état de siège, à lui donnant un bon contenu et à donner un cahier des charges, un agenda aux autorités militaires, je pense qu'ils peuvent nous faire du bien. Mais là, je crois qu'on les a jetés. Chacun invente ce qu'il appelle l'état de siège et finalement, ça devient chaos.
Merci, professeur Arsène Mwaka. Professeur Chobert Aguenonga, votre conclusion, le prof Dadi Salé parle de déclarer la guerre au lieu de tourner autour du pot.
Alors, il y a plein de contradictions dans la thèse qu'il est en train de soutenir. Et je ne pense pas que l'on puisse demander au chef de l'État de se vêtir en uniforme de l'armée pour aller au front et cela va entraîner la fin de la guerre. Moi, je n'ai pas vu un seul jour le président ukrainien aller au front. Et en 2013, il ne fallait pas que le chef de l'État aille au front pour que la guerre se termine. On ne le dira pas assez, il y a ce que nous appelons la division du travail. Donc le problème, c'est que c'est limité et comment dire, c'est la chaîne de commandement qui pose problème, qu'il faudrait absolument restructurer. Nous avons des officiers qui sont allés sur le terrain, non pas pour mettre un terme à la crise sécuritaire, mais pour leur enrichissement personnel. Donc il faut absolument relever ces officiers, les remplacer par des officiers beaucoup plus aguerris, beaucoup plus performants. Mais par ailleurs, je pense que il va falloir repenser le DDRC. Vous savez que même si on lançait les opérations militaires, la finalité c'est d'obtenir le désarmement volontaire ou forcé des rebelles. Alors il faut absolument qu'il y ait une structure préparée pour faire face à ces dynamiques.
Merci, professeur Chobert Aguenonga. Professeur Dadis, allez en 30 secondes, votre conclusion.
Je comprends le professeur Aguenonga, mais il reste un peu trop opérationnel. Il ne comprend pas exactement que dans la division du travail, c'est lui qui est au-dessus. Dans ce sens-là, c'est les chefs, effectivement, comme je l'ai dit, le président de la République, et que c'est lui qui est supposé commander un peu cette chaîne de commandement. Et si ça ne se fait pas, c'est lui. Donc je le comprends, mais en termes de management, je le comprends. Dans le management, c'est les chefs le responsable. Donc Aguenonga, le professeur pense que ça ne sert à rien. Donc effectivement, il faut des grandes décisions, pas des petites décisions techniques, comme il est en train de le dire. On a besoin des décisions stratégiques, où effectivement, nous savons effectivement que nous prenons les taureaux par les cornes une fois pour toutes.
Donc, merci professeur Dadi Salé, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guimaté, Dona Madimba, Martin Sebujangwe qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. Jean-Claude Sial a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.